bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
Quelque part dans un coin se cache un bonheur pour moi.
Bonjour. Dans cette émission de Un coin quelque part, je suis avec Julie et Marion, toutes deux membres de la foncière Antidote. On va vous raconter tout ça.
Salut Julie.
Salut Marion.
Bon, bah superbe. Mais c'est parti comme ça du coup, c'est bien? Vous êtes bien? Ça va?
Oui.
Bon, alors je ne sais pas si vous avez vu Un coin quelque part. J'essaye en effet de donner la parole ou de laisser de la place à des expériences, des vies, des personnes qu'on n'entend pas trop ou pas assez ailleurs, mainstream, avec un éventail le plus large que possible, même si je ne prétends pas à l'exhaustivité de quoi que ce soit. Mais voilà, toutes sortes de choses, comment les gens, là, maintenant, en ce moment actuellement, en France et ou ailleurs, mais majoritairement en France, se débrouillent avec les questions de se trouver un endroit où être bien, seul ou ensemble, quelque part.
Ok.
Voilà. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu de mon côté ce qui existait ou ce qu'on pouvait trouver sur le net concernant la foncière Antidote. Vos rôles sont un peu différents ou particuliers. Julie, donc, vous faites partie des membres fondateurs, fondatrices de la foncière. Et Marion, vous êtes sur une association, la Talvert, dans le Lot, dont vous nous raconterez un peu après les tenants aboutissants, puis comment ça se passe, c'est ça? Et donc, fondatrice, c'est bien le terme, Julie?
Oui, c'est ça.
Oui.
Membre fondatrice.
Ok. Je veux bien que pour les auditeuristes, on fasse un petit récapitulatif ou peut-être un petit historique, parce que c'est quand même, à la fois ce sont des sujets que nous avons déjà abordés dans l'émission avec d'autres personnes, et notamment sur la question donc de la propriété privée et de la recherche de plus en plus de groupes de sortir de tout ça. Mais là, la foncière et Antidote, c'est des choses un peu particulières. Alors Antidote, déjà pour l'histoire, vous pouvez peut-être raconter pourquoi ça s'appelle comme ça, ce contrepoison à quoi? À quel poison est-ce qu'on cherche une antidote?
On essaye de trouver une sorte de remède ou une tentative de remédier à la propriété privée.
Oui.
Du coup, Antidote, c'est né dans la tête d'une bonne douzaine de personnes. Il y a de ça, ça démarre en 2015-2016. Je dirais, on était plusieurs personnes à se retrouver un peu régulièrement autour de questions administratives, juridiques.
D'accord.
Voilà, pour des personnes qui étaient installées sur des collectifs agricoles, mais pas que. Et de fil en aiguille, voilà, l'histoire et l'expérience montraient à une bonne partie d'entre nous que la question de propriété était souvent problématique. Voilà, c'est des endroits de pouvoir, des endroits de gestion de l'argent. Et on a réfléchi à trouver un outil pour essayer de sortir de ça. Alors, à l'époque, il y avait déjà Terre de Liens qui existait.
Oui, absolument.
Et une structure qui permet à des paysans de s'installer, voilà, parce que l'accès au foncier est compliqué.
Oui.
Voilà, du coup, ça nous a un peu inspiré. On s'est rapproché de cette structure aussi pour comprendre un peu comment ça marchait.
Mm-hmm.
Bon, voilà, sans difficulté non plus. Mais grosso modo, c'est ça, ça a démarré à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, le fonds de dotation, donc Antidote, a été créé administrativement, on va dire, en 2019. Enfin, je ne me trompe pas. Voilà,
alors,
depuis.
Oui, pour vous, ce sont des évidences et des termes archi connus. Pour les auditeuristes, peut-être pas. Fonds de dotation. Qu'est-ce qu'on entend?
Alors, de dotation, c'est une structure juridique comme peuvent l'être une entreprise individuelle, une association loi 1901. C'est vraiment une structure juridique par entière. Voilà, du coup, la foncière Antidote est un fonds de dotation déclaré en préfecture. Et on a créé deux structures. Donc, ce fonds de dotation qui est lui-même piloté par une association loi 1901 qu'on a déposée au même moment, le même jour. Et qui s'appelle les passagères de l'usage. Peut-être on rentrera un peu après dans les détails du fonctionnement.
Oui.
Il y a une double structure.
C'est ça.
C'est un fonds de dotation et les passagères de l'usage qui est une association.
Fonds de dotation, c'est pas une banque?
Non, c'est pas une banque. Non, du tout.
Et en fait, Jou, tu me corriges si c'est pas ça, mais le fonds de dotation, il me semble que c'est une structure qui facilite tout ce qui est collecte de fonds et acquisition de foncier. Par rapport à une association ou une autre structure, c'est particulièrement adapté.
Oui, c'est ça. En fait, le fonds de dotation est d'intérêt général. et il permet une défiscalisation des dons.
Oui.
C'est un fonds de dotation. Voilà, du coup, c'est effectivement un très bon outil de levée de fonds.
Ok, donc le fonds de dotation, lui, il permet donc que des personnes, soit appartenant à un projet, soit de manière générique, fassent des dons ou des legs ou des donations, etc., dont acte. Et ensuite, donc, c'est la foncière Antidote qui, elle, devient propriétaire des lieux.
Voilà.
C'est ça?
C'est ça.
Ok, okay. Et les met en droit d'usage, on va dire ça, aux personnes, aux collectifs qui sont sur site, sur place.
Voilà, qui deviennent locataires. Et en ce qui concerne le montage qu'on a imaginé, un terme un peu barbare, les structures sont amphithéotes. Alors, amphithéotes...
Oui, amphithéotiques, c'est-à-dire, c'est, oui, tant que t'es là, voilà, t'es là. Et puis, oui.
C'est les personnes... Donc, on fait des baux à des personnes morales, donc des associations.
C'est ça.
Et les amphithéotes sont les structures qui ont signé le bail amphithéotique avec le fonds de dotation. Mmh. C'est le bail, le contrat qui relie... qui relie la structure propriétaire des fonds de dotation collectif et autogéré à l'association des lieux, à l'association usagère.
Ok.
Et du coup, j'avance un peu dans le raisonnement, mais je trouve que c'est important de le dire maintenant. Le fonds de dotation, il est piloté par ces mêmes usagères. C'est-à-dire que c'est pas juste un genre de gros propriétaire. Qui auraient plein de locataires qui sont des collectifs. C'est ces mêmes collectifs, enfin des personnes désignées au sein des collectifs, qu'on appelle les délégués des lieux, qui viennent participer au pilotage du fonds de dotation. Donc c'est géré par ces usagères, en fait.
Ça veut dire qu'il n'y a personne au sein du fonds et de la gestion du fonds et de la foncière Antidote, il n'y a personne qui ne soit pas engagé peu ou prou dans un des projets.
Alors, pour l'instant, il y a encore, en plus des collectifs, il y a encore les fondateurs, les fondatrices qui sont là. Et il y a aussi du soutien de la part de membres amis, qui ne font pas forcément partie du lieu, mais qui viennent apporter leur force de travail.
D'accord.
Voilà. Mais l'idée c'est un fonds de dotation qui soit piloté par les gens qui en bénéficient.
D'accord.
Un outil, on a souhaité faire un outil autogestionnaire, où c'est vraiment les usagers et les usagères qui ont dans les mains l'outil même de la propriété. Quoi.
D'accord. Et alors, ce fonds de dotation, il faut donc mettre de l'argent, un collectif doit mettre de l'argent dans le fonds de dotation pour pouvoir bénéficier ensuite de l'usage dont on parlait tout à l'heure. Ou autrement dit, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir soi-même une mise de fonds en tant que collectif ou en tant qu'individu pour faire quelque chose, ou pas.
Il y a, j'y vais,
Oui, je t'en prie.
Il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un collectif qui, par exemple, a déjà un lieu,
oui,
qui souhaite donner au fonds de dotation. Soit il y a des collectifs qui sont en cours d'acquisition de lieux et qui peuvent être soutenus par le fonds de dotation pour leur levée de fonds. Soit, Jou, tu peux compléter peut-être.
Et soutenus pas financièrement, c'est-à-dire plutôt avec un soutien à la logistique, voilà, sur des outils de communication, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la levée de fonds en elle-même, le fait de rassembler les sous, si tant est que le lieu est en train d'être acheté par le groupe qui veut l'investir, le groupe trouve lui-même les ressources dans ces cercles où il y a une communication adaptée pour réunir les sous pour acheter ce lieu. Le fonds de dotation en lui-même ne donne pas ou ne trouve pas les moyens de donner de l'argent aux groupes qui veulent acheter des lieux. C'est des lieux. En fait, c'est un outil, ce fonds de dotation. Il est d'intérêt général. L'argent qui circule et qui est donné à ce fonds est défiscalisé. Donc, c'est un outil dont peuvent se servir les lieux pour récupérer l'argent. Et l'argent arrive sur le compte de la foncière Antidote et le lieu est effectivement acheté avec cet argent qui a lui-même été récolté par le lieu. Je sais pas si c'est...
D'accord, oui, c'est clair, ça fait une boucle. C'est-à-dire que c'est pas la foncière qui va aller chercher, donc soi-même, enfin les collectifs trouvent leurs fonds et ces fonds-là sont en fait ensuite donnés en quelque sorte, mis dans la foncière pour que ça puisse fonctionner derrière. Ok, donc c'est
c'est aujourd'hui tel que ça fonctionne. Après, dans un idéal, la foncière, elle pourrait aussi avoir des fonds propres.
Oui.
qui seraient apportées par, je sais pas, des aides, des particuliers, des choses comme ça, et avoir ce qu'on mettre en place un genre de fonds de solidarité qui pourrait aider les collectifs pour l'acquisition de leurs lieux.
Oui, voilà, c'est ça.
Et pour l'instant, c'est en réflexion, mais c'est pas encore en action.
C'est pas encore en action. Ça pourrait être quelque chose, genre, moi je suis un particulier quelque part, je veux pas soutenir spécialement un seul projet, mais l'idée de ces natures-là de fonctionnement, et donc je peux passer par la foncière directement, c'est ça ?
Tout à fait.
Laquelle gérerai ensuite.
C'est l'idée, c'est ce que dit Marion, c'est l'idée de campagne, ce qu'on appelle des campagnes nationales de levée de fonds. C'est-à-dire plutôt que ce soit des campagnes dédiées sur un projet en particulier, où les membres vont, voilà, mettre de l'énergie pour essayer de lever des fonds sur leur propre projet. L'ensemble des gens qui constituent les passagères de l'usage, parce qu'en fait, la vie de l'association et la vie politique et l'organisation de tout ça, ça se fait au sein de cette association, les passagères de l'usage, qui pilotent le fonds de dotation, le fonds de dotation étant un outil foncier, quoi.
Oui.
L'idée, c'est voilà, de pouvoir, comme elle dit, pouvoir tabler sur... une communication bien plus large et sur un projet politique et sur ce qu'on a à dire de la propriété privée, de la propriété collective, de comment est-ce qu'on envisage les communs de manière générale et de pouvoir éventuellement trouver des sous et des mécènes et des personnes que ce projet politique-là intéresse. Après, à nous, à l'intérieur des passagères de l'usage, de définir voilà la répartition de cet argent, un fonds de solidarité. Bon, ça fait un travail à venir un peu sur les années prochaines.
Ouais. Alors, justement, Julie, vous venez parler de parler de mécènes. Moi, j'avais une question là qui me trottait. Comment on fait dans une telle organisation assez carrée, précise et pour être sûr que... Donc, on ne peut pas avoir de subvention, d'accord ? La Fondation ne peut pas recevoir de subvention, c'est quelque chose d'intérêt général, c'est ça. Mais du coup, comment on fait pour être sûr qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de possibilité de prise de pouvoir quelque part, de mauvaise... je ne sais pas, vous voyez, quelqu'un qui apporterait des fonds. Je ne sais pas comment ça se passe ensuite.
Alors, du point de vue financier, là, vous parlez ?
C'est-à-dire,
comment il n'y a pas de, entre guillemets, de l'argent sale ou de
considérer pas... Voilà, par exemple, oui. Oui, par exemple.
C'est des choses qui sont en réflexion. Alors, peut-être, du coup, je rentre un petit peu à l'intérieur des passagères de l'usage pour vous expliquer son fonctionnement.
Oui.
Et on a plusieurs commissions de travail. Donc, c'est les délégués des lieux dont parlait Marion tout à l'heure, toutes les personnes qui font partie des lieux cooptés, des lieux membres de la foncière antidote et des passagères, font partie de ces commissions, ainsi que les autres membres. Et il y a une commission, je peux les nommer, comme ça vous donne une idée, il y en a 7. Il y a une commission gestion, une commission communication. Marion, tu me complètes si j'en ai dit. Une commission veille, je vais y revenir juste après. Une commission informatique, accueil, juridique. Et il en manque une.
Tu as dit levée de fonds ?
Oui, levée de fonds.
Voilà.
Voilà, du coup, pour l'instant, c'est la commission gestion qui récupère un petit peu les infos concernant des éventuels dons. Et on est en train de réfléchir voilà, à comment l'anonymat des dons, par exemple, c'est assez important. Et en même temps, comment est-ce qu'on se fait confiance pour que si des sommes arrivent, potentiellement des grosses sommes, ben voilà, on ait confiance entre nous pour dire que... qu'on accepte ces sommes, que ça nous va éthiquement. On est toujours cette frontière là ce projet il est encore en construction quoi. Il existe depuis 3 ans donc tout n'est pas encore balisé.
Bien sûr. Oui.
Voilà donc c'est à la réflexion. Ce que je peux partager c'est que pour avoir fait partie un peu des réflexions depuis le début, ce qu'on s'est dit c'est qu'on n'avait pas envie de faire un projet tout ficelé, mais plutôt d'essayer de donner des bases assez solides. Un projet projet de société d'outils de société collective, mais que comme on souhaitait en faire un outil autogéré par ses usagers et ses usagères, alors il fallait laisser un peu de place, c'est-à-dire comme on a fait comme un espèce de texte à trous, quoi. Voilà, où en fait la suite de l'histoire on va l'écrire ensemble avec les personnes qui sont parties prenantes de l'aventure. Donc voilà, la question que vous posez, ça fait partie des choses qu'il faut.
D'accord.
Et je voulais juste compléter parce que j'avais l'impression, Isabelle, que tu demandais si un gros mécène donne de l'argent au fonds de dotation, comment est-ce qu'on prévient les prises de pouvoir, les choses comme ça. En fait, c'est pas lié. Si une personne donne de l'argent au fonds de dotation, ça lui donne aucun pouvoir.
Oui, c'est ça, ça lui donne pas de voix ni de rien
du tout. Géré par les usagères,
ouais,
en fait.
C'est ça. Ok.
Donc, il n'est pas géré par des sociétaires ou Les choses comme ça, c'est complètement un autre fonctionnement.
C'est ça, d'accord.
Alors après, on n'est pas exempt non plus de rapport de pouvoir, parce que du moment qu'on met des gens ensemble à faire des choses...
Vous seriez les premières, oui, c'est ça.
Alors que c'est juste des rapports de pouvoir, enfin, faut pas le nier. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on veille à ce que ça... Comment est-ce qu'on veille à ça? Eh ben, c'est justement cette commission veille... composé de différentes personnes du groupe qui essayent de regarder un petit peu les endroits un peu qui peuvent être un peu glissants ou problématiques, voilà, entre les personnes, entre les commissions elles-mêmes, à plusieurs échelles du projet. Voilà, on s'est doté d'une charte au démarrage du projet, où on a essayé de balayer et puis de définir un peu nos horizons communs et nos ambitions politiques, pour dire un gros mot, mais voilà, et du coup la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, c'est partie de ça, et les rapports de pouvoir, ben voilà, on essaye de se dire, ben, tout ça c'est des tentatives, parce que ben, bien sûr on est comme tout le monde, donc c'est pas parfait, mais on essaye de porter de l'attention à tout ça.
Oui. Ce que j'ai compris dans l'ensemble des projets qui peuvent participer peu ou prou à ces modalités-là, c'est qu'il peut s'agir d'habitat, mais pas simplement. Il peut s'agir, bon, on a parlé tout à l'heure des lieux et des espaces pour les paysans, lesquels sont parmi les premiers à avoir fait un mix entre le lieu de vie et le lieu de travail, mais il peut y avoir, j'ai vu aussi, d'autres situations, d'autres lieux, d'autres espaces travaillés collectivement, dans lesquels c'est pas l'habitat qui est là, mais c'est plutôt une activité ou, je sais pas, une association, que sais-je, des choses qui se font autrement, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, c'est le cas pour la Talle Verte, par exemple, dont je fais partie. Qui n'est pas du tout un lieu de vie.
Oui. Enfin, ça, pas d'habitat, quoi. De vie, mais pas de... Oui.
Oui, pas d'habitat.
Oui, d'accord. Et alors, ben voilà. Oui, ok. Peut-être on peut passer un petit moment là-dessus, là, du coup, sur cette...
Ok. Sur la Talle Verte.
Oui.
Donc la Talle Verte, c'est un lieu, c'est plusieurs choses. C'est une forme et un fond. La forme, c'est un tiers-lieu autogéré, en milieu rural, où il se passe plein d'usages divers et variés. Il y a c'est à la fois des bureaux, à la fois un endroit où il se passe des stages, des chantiers participatifs, des spectacles, voilà, des activités hebdomadaires, enfin, il y a plein de choses. Et dans le fond, tout ça est prétexte à un noyau un peu de membres permanentes, à une réflexion autour des communs, autour de comment on fait autour d'un lieu commun, comment ça fonctionne l'autogestion aussi. Et voilà, donc ça fait un peu des allers-retours, ce lieu-là, entre des accueils d'usage et des moments de réflexion, de l'opérationnel et de la réflexion et des retours sur expérience. Mais le fond de notre propos, c'est que la Talle Verte, ce soit un échantillon de commun, où on puisse s'exercer pour ensuite éventuellement reproduire à plus grande échelle et partager nos découvertes pour changer de paradigme plus largement.
Alors habituellement, je me méfie beaucoup du terme tiers-lieu, moi, personnellement, et surtout surtout avec la vision parisienne qui est que tiers-lieux, c'est devenu quelque chose d'assez improbable, en fait, hein, sur le. Et on est complètement dans la. Pour moi, de mon point de vue, la même question de la propriété se pose de la même manière, la question des discriminations et des choix. Enfin bref, ouais. C'est un peu... Voilà, mais tel que vous le décrivez là, du coup, c'est comme plus qu'un tiers-lieu, ça pourrait être quelque chose, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est quelque chose...
C'est un lieu commun, en fait.
Oui, voilà, c'est ça, quelque chose dans lequel des tas de choses peuvent venir s'inscrire, c'est ça ce que tu dis.
Voilà, il y a quand même l'aspect d'autogestion aussi qui, je pense, change par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'un tiers-lieu. Voilà, c'est les gens qui viennent, qui s'inscrivent, on a un site où les gens s'inscrivent pour venir faire réserver leur espace,
c'est ça.
Il y a plein de panneaux, de choses, donc il y a vraiment quelque chose qui roule bien.
Et qui ne provoque pas de l'entre-soi des dites personnes?
Si, ça provoque de l'entre-soi, ça fait partie de nos grandes réflexions. Comment ouvrir sans perdre une identité aussi, parce qu'il y a quand même un positionnement à cet endroit-là, dans cet endroit-là. Voilà, c'est une réflexion en cours, en travail. C'est pas la réponse. Je pense que c'est une grande question que j'ai retrouvée à plusieurs moments dans mes engagements collectifs.
Oui.
Voilà. On a cette vigilance-là, mais pour l'instant, c'est vrai que les activités qui se déroulent ressemblent globalement au groupe qu'on est.
Oui, ce qui en même temps est logique, hein. Oui, c'est ça. Hein.
On n'est pas hyper surpris.
On peut pas, oui, c'est ça.
Mais voilà, ouais, c'est un endroit délicat.
Ok. Mais et du coup, le fait que ça ne soit pas du tout un lieu d'habitat, c'est un choix voilà historique par rapport à ce projet. C'est ou bien parce que les gens sont éloignés les uns des autres géographiquement, ou qu'au contraire il y a déjà des communautés de vie ailleurs et que du coup c'était pas ça l'histoire.
Alors, c'était pas ça l'histoire au départ, puisque les membres qui le constituent avaient déjà leur habitat, que en plus le lieu est pas immense, voilà, c'est un corps de ferme avec une grange, en gros. Oui, c'était pas trop le propos, mais il se trouve que finalement, il y a un nouveau projet qui se monte à une centaine de mètres de là, avec des personnes qui font partie de la Talle Vert et d'autres personnes qui veulent être un lieu d'habitat.
Ok.
Et puis pour compléter un peu le tableau, donc ce nouveau projet s'appelle la Martelaise, et en face quand même de la Talle Vert, il y a une ferme aussi, une ferme Les Graines de Clairac, qui fait du pain, de la viande et des légumes en bio. Et du coup ça va faire un espèce d'écosystème assez cohérent entre ces trois structures.
Ah, c'est cool. Ouais, ok. Géographiquement, donc c'est le Lot,
c'est le Lot, c'est la commune de Bio.
Ok.
Bio.
Ce qui est drôle, oui.
Oui, voilà. Et que dire, et
ça existe depuis combien de temps?
Alors, moi, j'y étais pas au début, mais je crois que la Talle Vert, ça doit être 2017.
D'accord, j'ai pas trouvé ça. Ok, 2017. Non. Merci, Marion. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, 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 Lord, Lord, do it good. All right. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. In the jungle too, everybody on the floor now, jumping like a kangaroo. So let the horn do the thing they do, y'all. Some people have everything and other people don't. But everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Express yourself. Do it, go on and do it, y'all do it, get it, express yourself. Tout à l'heure, tu décrivais, Julie, le démarrage de la foncière et de ces idées, ces choses partagées là, comme étant partie effectivement de gens qui étaient sur la terre, donc des paysans. Il y avait, à l'origine, par rapport à ce que vient de dire Marion, il y avait le projet de séparer ou l'activité professionnelle ou pas versus l'habitat, ou comment est-ce que c'était, ou ça n'avait, c'était pas le sujet, c'était on avance et on verra quels sont les projets qui viennent se greffer là-dessus.
Non, je pense que c'était. Il n'y a pas eu de réflexion pour que ce soit scindé ou.
D'accord.
Je pense que la réflexion est arrivée par la suite, notamment face aux problèmes que traverse Terre de Liens. Voilà, parce que du coup, c'est une structure qui était inspirante
oui.
quand même, mais qui se retrouve avec le temps avec une difficulté autour de l'achat du foncier agricole et ou l'achat de bâti pour y loger des paysans, paysannes.
Voilà.
Et voilà, du coup, il y a une problématique apparemment à l'intérieur de Terre de Liens. On a été face, et on l'est encore, je pense, face à des situations où des personnes viennent nous voir une Terre de Liens a effectivement acheté les terres, mais par contre qui ne veut pas acheter le bâti pour se loger. Du coup, ça c'est des situations pas hyper évidentes. Il y a un nœud là. Nous, au démarrage du projet, on était plutôt des lieux collectifs et agricoles. Donc, de fait, on avait des habitats collectifs et une activité collective. C'était un espèce de package, sachant que selon les projets, effectivement, il y avait plein de manières de vivre ça différemment. Mais l'idée, elle était plutôt autour de la propriété collective de manière générale.
Oui.
Voilà. Après, on s'aperçoit que là, les projets, les personnes que ça intéresse, c'est principalement, je pense, des lieux d'activité, un peu voilà, comme ce que décrit Marion pour la Talle Verte. Où la question de l'habitat n'est pas forcément hyper présente.
Ah oui.
Voilà, je réfléchis un peu au profil un peu des différents projets. Marion, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça a l'air d'être plutôt ça. Mais déjà, dans la...
Mais il y en a dans les nouveaux entrants, il y a quand même de l'habitat, j'ai l'impression.
Oui.
Lina, Terre Ferme, tout ça, non ?
Oui, voilà, il y a... Ouais, plutôt,
ça vient aussi, en fait. C'est assez...
Ouais, mais pour l'instant c'est plutôt minoritaire, mais voilà, il y a toc à la porte.
Mais c'est normal, logique, et on voit bien avec les dernières affaires, l'histoire des personnes qu'on empêche d'habiter dans des yourtes ou dans des habitats légers ou autres, alors qu'ils sont agriculteurs et tristes et que ça ne gêne personne qu'ils aient ce type d'habitat. Enfin, bon, on a bien cette question-là, cette problématique-là, elle est là depuis plusieurs décennies. Et c'est pour ça que j'aborde ce point de la séparation, entre guillemets, entre les lieux de vie et les lieux de l'autre vie. L'habiter et le faire ensemble. Les problématiques de logement qui sont très différentes, évidemment, milieu urbain versus en milieu rural. Enfin, bon, c'est vraiment pas des choses qui sont évidentes à penser. Et ok. Et donc moi, c'est vrai que quand je suis allée vers les informations concernant la foncière antidote, moi j'étais avec mon affaire plus d'habitat entre guillemets, et j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'en fait, non, c'était pas peut-être pas par là que c'était arrivé, même si, comme vous le dites là, l'une et l'autre, il y a ça frappe à la porte de ce côté-là aussi.
Oui. Oui, tout à fait. Il y a une autre structure qui a été assez inspirante pour nous aussi, c'est le Mitthauser Syndicat. Alors, c'est une structure allemande qui est bien plus vieille.
Tu peux redire le nom, Julie?
Alors, je ne parle pas allemand moi-même, donc je ne sais pas si les germanophones vont me comprendre, mais Mitthauser Syndicat.
D'accord.
Bon. Habitat, quelque chose autour du syndicat de l'habitat partagé, je crois.
Oui.
Voilà, une structure qui existe depuis un petit moment et il me semble qu'ils sont, c'est parti plutôt de l'habitat. Alors, pour ceux que ça intéresse, il ne faut pas hésiter à aller sur leur site ou.
D'accord.
En anglais. Ouais. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, du point de vue du fonctionnement et de la manière dont ils ont réfléchi la propriété collective par rapport à l'habitat. Mais je crois qu'il y a aussi des projets autour d'activités. Mais que c'est peut-être, ça s'est constitué un peu différemment que la foncière antidote.
D'accord. Tu n'étais pas en proximité avec des groupes comme, ou des fédérations comme Abicop, par exemple?
Ah non, moi ça ne me dit rien.
Ça ne dit rien?
Non, non plus.
Ok, c'est intéressant. Abicop, c'est une structure un peu fédérative qui regroupe et qui a un peu le même... j'allais dire, sauf qu'ils n'ont pas de foncière, justement, pas encore, puis qu'ils y pensent. Mais en tout cas, j'ai fait plusieurs émissions avec des gens d'Abicop. Mais là, c'est vraiment sur l'habitat, comme son nom l'indique. Et en fait, ce sont des coopératives d'habitants-habitantes qui mettent en commun un certain nombre de choses, mais du coup, qui sont pour le moment en difficulté parfois avec la question financière, puisqu'il y a des gens qui veulent rentrer dans les projets, mais n'ont pas d'argent, et donc du coup, ils doivent faire des emprunts. Donc la question se pose de est-ce que c'est la SAS qui est porteuse de l'emprunt, ou est-ce que c'est les individus. Enfin, chaque groupe réagit, répond avec des manières différentes comme ça.
D'accord.
Et il se pose la question justement de monter ou pas une foncière avec un fonds qui permettrait de soutenir autrement les projets, en fait. Que
d'accord,
là.
Intéressant.
Mm-hmm. C'est rigolo. Hein. Mm-hmm. Alors que,
puis
du
moi,
coup...
ce que je trouve super intéressant vraiment dans l'idée d'Antidote, c'est que dans cette sortie de la propriété privée, c'est qu'une fois que le lieu il appartient à Antidote, par exemple, si nous, la Talver, notre association, elle périclite pour je ne sais quelle raison, puisqu'en plus les collectifs, c'est souvent fragile.
Oui.
Ce lieu-là, il sera confié à un autre collectif.
Oui, oui.
Il restera.
C'est ça.
Et voilà, sans besoin de rachat et de.
Il est sorti pour de vrai du marché.
Il est sorti pour de vrai. Et du coup, ça donne en plus toute une envergure aussi à ce qu'on fait quand on fait des chantiers participatifs sur le lieu, par exemple. De savoir que non seulement on va en bénéficier, mais qu'en plus, tous ces efforts mis, toutes ces personnes, toutes ces énergies, elles vont profiter dans la durée à d'autres collectifs après nous, ou enfin, en tout cas à tout ce mouvement de lutte et de transformation sociale. C'est quand même... j'ai trouvé ça génial. Quand j'ai rencontré Antidote, je me suis dit, waouh,
voilà,
ça donne vraiment de l'envergure.
Ça donne de l'envergure, c'est vraiment réjouissant de se dire de contribuer à quelque chose qui met à l'écart et à l'abri, j'allais dire, des choses,
exactement.
Des activités, des terrains,
et
des espaces.
Ce qui permet ça, en l'occurrence, c'est le côté un peu plus technique, mais c'est que c'est le bail amphithéotique qui est un peu la pierre angulaire à cet endroit-là et qui permet de se projeter vraiment sur un temps long. C'est des baux qui peuvent aller jusqu'à 99 ans.
Oui, c'est ça.
Et du coup, c'est vraiment ça qui donne, là, ce que disait Marion, la portée vraiment politique, symbolique, de pouvoir se projeter sur un temps long et que les aventures collectives qu'on traverse, effectivement, elles sont humaines, donc elles sont fragiles. Mais par ailleurs, au-delà de nos propres vies et de la propre énergie qu'on met à faire exister ces lieux, et ben derrière, en fait, pour 99 ans, il va pouvoir s'en passer des choses parce que ces lieux sont vraiment mis à l'abri de la spéculation, quoi.
C'est ça. Et donc, ça permet vraiment de se mettre hors du champ de la possession et que ça soit plus une question.
Ouais. C'est hyper libérateur.
Voilà, j'imagine que ça doit l'être. Ouais. Okay.
C'est vraiment le nom de l'association, les passagères de l'usage.
Ouais.
C'est ça qu'on a souhaité imprimer comme imaginaire. On est des passagères, des passagers de l'usage. L'idée, c'est on est dans une société capitaliste et libérale où la propriété sacré. Enfin, voilà, elle est inscrite dans la Constitution. Oui. Et donc, c'est évidemment pas évident de... On peut pas dire qu'on peut abolir la propriété privée dans la société dans laquelle on est. Par contre, le pari qu'on fait, c'est de tenter de la neutraliser, cette propriété, et de revaloriser l'usage. C'est-à-dire, bon, alors, les types de propriété, là, les papiers qui disent qu'on est propriétaire, on va les mettre dans une espèce de boîte, on va les mettre ensemble au sein de cette frontière antidote. Mmh. On va être garant, garante, gardienne de cette boîte ensemble. Mais par contre, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas la propriété, c'est l'usage. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces lieux, comment on en prend soin, comment les humains qui habitent là prennent soin, ben voilà, de faire avancer le schmilblick dans la société dans laquelle on est. Hein. Mmh. Ben, l'idée, c'est de tenter de neutraliser, c'est un terme qui nous parle bien, la propriété, l'abolir. On peut pas dans la société dans laquelle on est, mais voilà, on essaye quelque chose d'autre. Alors, ça reste un pari parce que voilà, c'est un peu nouveau, et puis on tâtonne et on avance un peu, mais. Mmh.
Oui.
Mais jusqu'à présent, c'est plutôt chouette.
Ouais. Ça tombe bien comme ça. Ouais. Si on disait qu'en termes de nombre, ça touche combien de personnes là actuellement, la foncière antidote, c'est quoi comme
Alors là, il y a six lieux.
Ouais. Collectif,
voilà.
D'accord.
Bon, je sais pas, chaque collectif peut-être... C'est
une quinzaine compliqué. Ou une dizaine de personnes, j'ai du mal à...
Ouais, peut-être, je dirais, oui, on va dire une douzaine, allez.
Allez, 12. 12 fois 6.
72.
Ouais.
Plus les membres fondateurs, fondatrices.
Oui, c'est ça, une centaine de personnes, c'est ça.
Ouais,
les gens qui habitent un petit peu autour.
Ouais.
Bah, une centaine de personnes,
pour l'instant. C'est ça. Et du coup, je pose la question, voilà, au-delà de ce chiffre-là, qui est comme ça intéressant en soi, mais est-ce que c'est quelque chose auquel, une chose à laquelle vous avez pensé, l'une l'autre, jusqu'où ne pas aller pour que ça ne soit plus gérable, pour que les passagères ne puissent plus être réellement les pilotes de l'usage et de tout ça, ou pas? Est-ce que c'est une question?
C'est une espèce de question planante. Voilà, la question de la taille, de l'échelle.
Oui.
C'est quelque chose qui fait partie de nos réflexions depuis vraiment le tout début, depuis l'amorçage de l'idée même du projet.
Ouais.
Voilà, parce qu'on a décidé de monter une structure nationale. Donc, on est aux quatre coins de la France, on se retrouve.
Ah, c'est ça.
On a fait un métier un peu centralisé, on va dire, pour des raisons économiques aussi, parce que pour avoir un fonds de dotation qui existe, ces comptes doivent être attestés par un commissaire aux comptes.
Oui.
C'est un petit peu d'argent. Donc, voilà, on a décidé une forme qui... revenir à ce qu'on était capable de faire, mais voilà, effectivement, dans l'histoire, pas mal de structures montrent qu'à force de grossir, bah, finalement, on a envie d'être un outil au service de nos imaginaires politiques, et puis finalement, ça deviendrait une machine qui viendrait nous manger tout cru. Donc voilà, on a effectivement quelque chose de... C'est pas évident, et de le savoir à l'avance, donc on a imaginé différents scénarios. On essaye de faire cette commission veille à l'intérieur des passagères de l'usage à un mandat pour, par exemple, chaque année ou régulièrement faire un autodiagnostic, c'est-à-dire essayer de demander à tous les membres et toutes les personnes qui font partie du projet de nous demander ensemble, et alors comment ça va, est-ce que la dimension du projet est toujours confortable, est-ce qu'il y a des endroits où ça devient glissant, pour quelles raisons, d'essayer d'avoir une veille collective sur notre manière de grossir. Et voilà, il y a des imaginaires de fédération, on pourrait éventuellement à mesure que il y aurait du monde qui rentrerait dans les passagères de l'usage, comment faire en sorte pour que les échelles de décision et le confort et les prises de pouvoir soient régulées, quoi.
C'est ça, oui.
Et de baisser les échelles, donc de régionaliser, de localiser, d'arriver à une sorte de fédération des fonds de dotation. Bon, il y a plusieurs imaginaires, il y a plusieurs choses en tête.
Former des gens pour créer leur propre fonds de dotation. Oui. Enfin, il y a plein de...
Voilà.
Pour l'instant, dans le manifeste... Dans le manifeste, il est écrit que la taille convenable, c'est la taille où chacun, chacune se connaît et se reconnaît. On est dans un groupe où on connaît le prénom de chacun, chacune. Enfin, voilà, il y a on n'est pas dans de l'anonymat. Et du...
Oui, mais du coup, c'est
pour
ça. C'est, pour ça,
que... c'est ça, mais c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de sollicitations.
Ben, j'imagine qu'il va y en avoir encore plus, de plus en plus, eu égard aux situations diverses que traversent les personnes dans la société française. Et je me disais, le fait d'être devenu à un niveau national, du coup, ça oblige, entre guillemets, déjà à quelque chose de différent que si on était resté, j'en sais rien, sur une région, ou sur un X région, ou un coin, ou je sais pas. Ok.
Oui, merci. Oui. On est face à des... voilà, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à de plus en plus de demandes.
C'est ça.
La formule qu'on a inventée là, voilà, ça fait envie, mais oui. On est face à une difficulté de choix, parce qu'on est tous et toutes bénévoles, hein, bien évidemment, à l'intérieur de ce projet, en plus de nos propres vies collectives sur nos lieux. Ça rajoute pas mal de boulot, et c'est vrai que, dans le sud, grosso modo, mais ça c'est un peu historique, hein, le sud-est de la France, on va dire le quart sud-est, il y a une grosse dynamique, il y a pas mal de projets, on est pas mal sollicité par des personnes qui proviennent plutôt du quart sud-est,
d'accord.
Alors que le quart nord-est ou le quart nord-ouest, par exemple, un peu moins.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour avoir une cohérence, pour que tout le monde se sente bien, pour être ouvert, pour permettre à différents profils de projets ou de personnes de pouvoir participer à l'aventure.
Il y a des projets urbains et ruraux, d'équilibrer tout ça.
Ouais,
les problématiques économiques aussi, parce que cette difficulté de certaines personnes ou certains réseaux qui vont pouvoir avoir accès, comme on disait tout à l'heure, à lever des fonds dans leur cercle proche, deuxième cercle, troisième cercle. Et puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes même en allant taper les premiers, deuxième et troisième cercles, il y a toujours rien dans la cagnotte parce qu'il y a pas de sous, quoi.
Ouais.
Donc comment est-ce qu'on permet aussi à des personnes qui ont probablement moins accès à la propriété de manière générale dans la société française à pouvoir avoir accès à de la propriété collective. Cette question-là, on n'y répond pas avec l'outil qu'on a fait, mais en tout cas, c'est des questions qui nous animent. Ouais.
C'est intéressant parce que c'est vraiment, comme Marion, tu le disais tout à l'heure, c'est pour moi le même type de question que l'entre-soi dans l'ensemble des milieux militants ou autres, cette question de la taille et de jusqu'où on va et en même temps, comment on n'empêche pas d'autres de venir, eu égard au fait que voilà, ils voient ou ils ont pris connaissance d'une idée de quelque chose qui leur irait bien. Et comment on fait pour que l'un ne soit pas destructeur de l'autre, quoi.
يا حين يبقى علي بيت
Il y a eu un livre qui est sorti, j'ai vu ça, donc un collectif Ancrage, Habiter sans posséder. Vous en avez fait partie l'une l'autre de ce travail-là ou pas du tout?
Alors moi, de loin.
D'accord. Ok.
Et Habiter sans posséder, c'est le nom d'un séminaire qu'on a organisé à Dijon, aux Tanneries, en 2019.
D'accord. Et c'est pour ça que c'est devenu voilà. Après le titre du livre, c'est ça?
Voilà, c'est devenu okay. Le titre du livre. Okay. Et c'est un livre qui compile, en gros, les interventions des différentes personnes qui sont venues participer à ce séminaire okay. Autour de la question d'habiter sans posséder. On avait invité voilà différentes personnes de différentes disciplines, des historiens, historiennes, des économistes, des sociologues, différentes personnes, voilà, pour essayer de croiser les regards sur la question de la propriété collective.
C'était au moment de la fondation, au moment de la création, pardon, de la fondation et des instances ou...
Oui, c'était un peu avant ça, si je me souviens bien. C'était un petit. On cherchait une manière de pouvoir écrire cette charte, écrire ce manifeste.
Ah oui, d'accord.
Quel est notre imaginaire politique? Dans quelle histoire, de quelle histoire est-ce qu'on se sent les héritiers et les héritières? L'histoire autogestionnaire, par exemple, la Catalogne en 36, des expériences au Chiapas ou au Rojava, ou il y a plein de gens dans l'histoire et dans l'espace.
Eh oui.
Réfléchissent ces choses-là et on avait envie d'inscrire aussi ce qu'on essayait de faire là dans une histoire au sens large. Mmh. Et ce bouquin relate un petit peu les différentes interventions de tout le monde là-dessus. Mmh. Et il se trouve qu'à Ancrage, c'est un projet qui fait partie de la frontière Antidote et qui se trouve à Nancy. C'est un immeuble principalement d'activité qui a été acheté. Et voilà, il se trouve qu'il y a une petite maison d'édition qui a édité ce livre de l'ancienne. Ouais.
Ok. Marion, non, tu n'étais pas au séminaire, toi?
Non. Non. C'est pas encore arrivé.
Pas encore arrivé. Ok. D'accord. Et c'est quelque chose que vous avez prévu d'en remonter d'autres, des séminaires comme ça, ou des échanges avec d'autres sur... Sur les comment alors, se poursuivre les choses ou pas du tout?
Alors, comment dire, on en a très fortement envie, je pense, pour pas mal d'entre nous, parce que c'est toujours très nourrissant de croiser les expériences, les regards un peu là-dessus. Après, le temps manque.
Oui, c'est ça, c'est un gros boulot d'organisation. Ouais.
Et là, il y en a eu un qui a eu lieu en novembre 2021. Où il y a eu Sarah Van Uxem et Isabelle Stengers qui ont été invitées pour discuter aussi autour de tout ça.
Okay.
Et un lancement de levée de fonds, de campagne de levée de fonds nationale.
Ça a donné lieu à des minutes ou un compte-rendu de quelque chose, de réflexion là-dessus?
Alors, il y a une vidéo qui est en cours de montage.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà, qui sera cool. Sur le site. Ce sera sur le site dès que le montage sera terminé. Elles ont participé à une table ronde. Ouais.
D'accord, super.
Visionnable.
Ok.
Et oui, effectivement, on a envie de refaire des temps comme ça, d'échanges, des tables rondes, des séminaires sur la thématique de la propriété collective, des communs, inviter plein d'autres gens qui ont plein de choses intéressantes à dire, mais bon, pour l'instant, le temps manque. Après, oui, dans un rythme de croisière des passagères de l'usage, voilà, on imagine qu'une fois par an, tous les deux ans ou trois ans, on crée des moments comme ça un peu pour dézoomer de nous de notre quotidien un peu de foncière et puis élargir les horizons, rencontrer d'autres projets, d'autres gens qui œuvrent un peu dans le même sens, quoi.
C'est ça.
Oui,
c'est ça.
Puis pour sortir de l'outil, quoi, pour aussi se nourrir de réflexion et de mettre du carburant, quoi. Continuer à le faire évoluer.
Il y a déjà un petit peu un réseau européen qui est en train de se constituer.
Oui.
C'est un peu balbutiant, je crois, mais en Autriche, en Allemagne, donc en France, en Angleterre, j'en oublie quelques-uns, mais il y a un peu des initiatives similaires autour de voilà, de monter des structures juridiques et de restriction autour de la propriété collective. Alors forcément, les solutions sont différentes selon les de législation nationale.
Voilà, les droits sont pas les mêmes partout. Oui, oui.
Voilà, les droits sont pas les mêmes. Mais nous, on a plus particulièrement des liens avec le Mitra Housing Syndicat, parce qu'il se trouve qu'on a des amis qui les connaissaient aussi.
D'accord.
Et voilà, c'est nourrissant. Donc, voilà, donc, on peut imaginer que dans les années à venir, oui, il y a du lien qui se crée entre toutes ces structures. Alors là, principalement autour de la propriété collective, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt à dézoomer même de la question de la propriété en soi et de la question plutôt ce qu'on appelle du mouvement des communs. Et
ouais.
Voilà, nous on fait partie un petit peu de cet élan là de réfléchir les choses à plusieurs et de réfléchir l'usage des choses moins de focaliser sur la propriété voilà.
Oui, tout à fait. Parce que cette question-là, la propriété, elle continue quand même aussi, elle va alimenter d'autres sujets. Je vois par exemple, je suis en lien avec des groupes, des communautés. Alors, qui sont appelés gens du voyage, mais bon, c'est une catastrophe ce nom. Alors, on va dire des communautés qui sont soit nomades, soit pas du tout, mais en tout cas bougent, et qui, du coup, sont, elles, d'un autre point de vue, encore plus, j'allais dire, encore plus mise en difficulté avec la question de la propriété, puisque de toute façon, où qu'elles aillent, ou que ces personnes ou ces groupes aillent, de toute façon, c'est jamais ça, quoi. C'est jamais ça, elles sont jamais bienvenues, c'est jamais le bon endroit, on leur fait des réserves, hein, des terres d'accueil qui n'en sont pas, enfin, des aires d'accueil qui n'en sont pas. Et alors, du coup, ça, c'est pour moi, c'est une vraie question de comment des projets militants peuvent arriver, peu ou prou, à tenir compte de ce type ou de ce genre de besoin dans des projets comme cela, et comment on répond à oui, on achète quelque chose tout en laissant de la disponibilité pour des choses qui sont quand même ailleurs et ne sont pas construites de la même manière que des projets qu'on peut avoir, j'allais dire, de manière très occidentale ou pensée de manière occidentale. Je ne sais pas si vous comprenez ma question.
C'est intéressant comme réflexion. Je sais pas quelque chose qu'on a investi particulièrement, mais en tout cas je pense que la manière dont d'envisager les choses, de mettre de l'importance à l'endroit de comment avoir l'usage des terres, du bien qui a été acheté, ça laisse complètement la porte ouverte à voilà, à pouvoir être squatté par ses propres potes.
Ouais,
voilà, la question du prêtre, effectivement, des personnes nomades qui...
Oui, ou des gens juste, des lieux qui seraient simplement, sur lesquels il n'y aurait pas un projet, parce que, bon, pardon, hein, mais le terme de projet, quand même, c'est un terme hyper contemporain, là où tout le monde a son projet, il faut avoir un projet, parce que si tu n'as pas de projet dans la vie, tu n'es rien, n'est-ce pas? C'est... Bon, je caricature, hein, mais exprès. Et du coup, d'ailleurs, que des tas de sociétés ailleurs ont bien vu, avec les gamins qui vous alpaguent quelque part, ouais, j'ai un projet, t'as pas de l'argent pour mon projet, bon. Et du coup, je me dis, quid des gens qui n'auraient pas de projet particulier à part celui de vivre, et comment on pourrait mettre des espaces et des terres à nouveau à disposition, mais en les ayant mis à l'abri, comme on le disait en début d'émission. Comment on pourrait faire ça? Ça, je trouve que ça serait un projet intéressant, en fait.
Non, tout à fait, des réflexions à avoir, mais après, j'imagine que c'est... Enfin, dit comme ça, il faudrait que les personnes qui ont envie, que les personnes qui ont envie d'habiter quelque part ou d'y faire quelque chose ou de ne rien y faire ou de qu'on se rencontre en fait, et qu'après les choses, l'usage des choses, la répartition des espaces, la manière de fonctionner ensemble humainement, tout ça, c'est des choses qu'il faut décider ensemble. Donc peut-être que c'est juste qu'on manque d'endroits pour se rencontrer.
Oui.
Et voir qu'est-ce qui est possible, quoi.
C'est ça.
Après, tout est imaginable.
Et Alem, par exemple, vous êtes en relation avec l'association Alem, non? Non, vous ne connaissez pas?
Pas spécialement, je ne crois pas. Okay. Mais je connais deux noms, mais...
D'accord.
Des personnes à l'intérieur des passagères, je pense, ont des liens plus...
Qui ont des liens avec... Voilà, c'est ça. Parce que là, il y a du coup, c'est une association qui du fait de ce qu'elle défend ou de ce qu'elle... outils, là aussi, hein, d'un point de vue juridique, etc., a des relations avec des tas de sortes de populations et de personnes très très différentes, et voilà, mais qui sont là-dessus. Et du coup, j'ai encore trop de questions, ça va pas être possible, ça, il est déjà... Oh là là, j'en choisis deux, d'accord, parce que...
Ok.
sauf si après... Vous avez envie, vous, de rajouter quelque chose? Mais j'en avais une quand même sur la question de la, les passagères. Les passagères. Oui. C'est une, donc, à l'origine, c'est une affaire de féministe, c'est une affaire de, ou bien c'est ouvert complètement,
Non, moi, à l'origine, enfin, tu me corriges, Jou, parce que moi, j'étais pas à l'origine, mais j'ai l'impression qu'à l'origine, c'était pas une affaire de féminisme. Par contre, c'est une question, la question des oppressions au sein de notre groupe est vraiment importante et traitée. On a, par exemple, au sein des passagères, des groupes, un groupe en non-mixité aussi, on essaye d'avoir de la vigilance à pas reproduire au sein de notre groupe, des oppressions qu'on dénonce par ailleurs. Ouais. Et parmi nos essais aussi pour bousculer un peu les normes, etc., il y a aussi de féminiser, de parler en féminisant les termes, voilà, redonner de la place à ça.
Ok, plutôt que d'utiliser des mots à rallonge ou inclusifs, comme on dit maintenant, c'est ça, c'est de féminiser a priori. Ok.
Oui, bah après tout c'est pareil, on est traversé en fait par la question du langage inclusif, de se retrouver en mixité choisie pour aborder les thèmes qui nous concernent. Donc oui, il y a une dimension féministe assez forte à l'intérieur des passagères et. Mais pas que, on a aussi envie de réfléchir à toutes les différentes formes d'oppression et de domination. Enfin, on parlait tout à l'heure du rapport à l'argent et des rapports de classe aussi qu'on peut continuer d'entretenir malgré nous, finalement, en faisant d'entre-soi. Enfin, bon, voilà, il y a un champ énorme, hein.
Ouais.
Comme tout le monde, et on essaye de l'investir aussi à notre manière avec le dénominateur commun de la propriété, quoi. Donc,
c'est ça. En le passant sous le prisme de la question de la propriété.
Ouais.
Et d'ailleurs, du coup, aussi la propriété des mots et de la langue et du langage.
Oui,
c'est important.
Oui. Ok, et ma deuxième grande question, c'était sur une fois qu'on a acheté des terres, ou quand on les achète, et que donc on en a l'usage, est-ce que, j'ai pas vu ça dans la charte, mais peut-être je fais une erreur, est-ce qu'il y a des principes ou des préceptes ou de, parce qu'on a parlé de bio tout à l'heure, d'agriculture bio en face par exemple de la talvert ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des prescriptions sur comment on va, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces terres au titre des constructions s'il en est, ou au titre de comment on va la travailler, pas la travailler, etc. Est-ce qu'il y a des points communs, est-ce que dans les projets on est vigilant sur sur les actions qui vont être faites sur les terres en question.
Jo, je peux y aller ?
Ouais. Il n'y a pas de règles, puisque ce qu'on veut faire, c'est redonner de l'importance à l'usage, et donc du coup que les personnes qui sont usagères des terres, des espaces, des lieux, des bâtis, puissent décider par elles-mêmes de ce qui est bon pour elles, sans qu'il y ait un propriétaire qui vienne dire « Ah ben non, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. » Donc voilà, donner vraiment une grande liberté à cet endroit-là. Mais par ailleurs, le cadre effectivement du manifeste, il est plus politique, c'est-à-dire de baliser de manière générale un imaginaire émancipateur, je sais pas comment dire, anticapitaliste, de lutte contre l'oppression. Enfin, c'est ce qu'on essaye de poser dans ce manifeste, pour donner des contours à nos imaginaires et de faire que les personnes qui rejoindraient le projet de la foncière et les passagères s'inscrivent dans cette histoire-là, quoi. Et après, concrètement, ça donne des espèces de grandes lignes où, comme elle disait Marion tout à l'heure, l'idée c'est de se connaître et de se reconnaître à l'intérieur, donc de ce projet, quoi, humainement et politiquement. Et puis dans le cadre de ces grandes lignes et de ces contours, alors tout est imaginable.
Ok.
Je sais pas si ça répond à la question.
Et après, il y a un grand parcours quand un lieu fait la demande pour être coopté dans la foncière. Il y a des personnes référentes qui vont se rendre sur le lieu, il y a beaucoup de discussions, il y a aussi beaucoup de retours en grand groupe au niveau des passagères, et c'est un peu des cas particuliers, et on prend le temps de maturer tout ça, ces questions-là un peu, oui voilà, au cas par cas, il n'y a pas des critères rigides.
Oui.
Voilà. Ça peut mettre facilement un an entre le moment où une demande est faite et le moment où la cooptation va effectivement avoir lieu.
Ah, ok. D'accord.
Il y a tout ce temps de rencontre entre les passagères et le collectif.
Ok, d'accord, je comprends. Ok. Et donc, ça permet de laisser venir aussi ce qui va s'y produire et ou d'ailleurs de soutenir la modification de ça ou des changements ou des évolutions dans les réflexions des personnes qui étaient à l'origine du projet. D'accord, ok.
Et puis que les personnes appréhendent aussi qu'est-ce qui se passe au sein des passagères, c'est quoi en fait, moi par exemple, j'ai vraiment... c'est un nouveau projet. J'ai le projet de la Table Verte et puis je travaille aussi pour ce nouveau projet des passagères et d'Antidote. Et voilà, et ça met du temps à cerner exactement de quoi il s'agit, quels sont les leviers, quels sont les rencontrer les personnes, enfin tout ça.
Oui, puis c'est pas un truc auquel on est forcément tous et toutes habitués quoi à faire comme ça, à agir de cette manière. Donc ça nous prend aussi, j'imagine personnellement, individuellement, du temps pour accepter des trucs ou les, je sais pas, enfin faire avancer son propre imaginaire avant de pouvoir faire avancer l'imaginaire collectif.
Ouais.
Ok.
Et ça, c'est un des aspects vraiment riches des passagères aussi, cette rencontre du coup intercollectif.
Oui.
Avec tout ce qui fait nos différences selon nos milieux, selon nos luttes, etc. etc. tout ce qui fait aussi notre unité, et ça renforce beaucoup les conversations, même interplénières ou des temps non formels où on discute de nos projets, on voit nos difficultés, ça nous en puissance, pour reprendre un terme du moment. Dans nos petites embarcations, chacune, là, on fait le lien, quoi. C'est précieux.
Ok. Y a-t-il un point sur lequel on n'est pas allé ou des questions qu'on n'a pas abordées, ce que vous voudriez rajouter là?
Oh, des questions, il y en a des milliers, mais.
Ben, c'est ça. Hein. Mais donc, certaines qui vous viendraient là en disant non, je veux absolument avoir dit ça.
Mais...
Là.
Non, moi j'ai l'impression qu'on a bien balayé la question.
Ouais. Je crois que ça veut dire. À titre individuel, le fait de faire partie de cette aventure, ça nourrit énormément. Enfin, il y a une sorte de pari politique important, créer un outil autogéré, autogestionnaire de propriété collective à l'échelle nationale. Et je pense que ça, toutes les personnes que je rencontre, les copains, copines avec qui on a pensé l'idée, et puis les personnes que je rencontre au fur et à mesure de... C'est juste génial. Enfin, dans le monde dans lequel on est, c'est pas tous les jours facile de se réjouir, d'être optimiste, mais en tout cas, moi, ça m'apporte énormément de participer à ça. Et donc voilà, je vais essayer d'être encore un petit peu là. Ça fait du bien. Ouais,
ça fait du bien. Je suis bien d'accord avec ça.
J'imagine. En tout cas, ça donne envie, tel que vous le décrivez. Et c'est beau. Merci beaucoup de tout ce partage-là, puis de l'authenticité des réponses et des choses que vous nous avez transmises là. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Alors, désolé si du coup ça provoque un afflux nouveau de gens qui frappent à la porte. Mais bon, c'est la vie, hein.
C'est la commission communication qui
va s'en occuper. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup à l'une et l'autre.
Merci à toi pour ton écoute et tes questions. C'est toujours aussi, ça fait soi-même cheminer d'avoir des questions.
Cool, tant mieux.